Chapitre 11. Résurrection. Dans l'embrasure de la porte apparut une jeune femme vêtue de noir de la tête aux pieds. Elle releva silencieusement son voile noir et découvrit un triste visage, pâle et tourmenté. Le front était bas et couvert, les yeux très distants l'un de l'autre, les traits inférieurs remarquablement petits et délicats. En bonne santé, comme l'avait remarqué le consul d'Angleterre à Mannheim, cette femme devait, sinon être d'une vraie beauté, du moins avoir beaucoup de charme. Telle qu'elle était alors, souffrante, abattue, contenant mal son chagrin et sa colère, elle pouvait encore exciter l'attention et même la curiosité, elle ne pouvait plus éveiller l'admiration, à peine l'intérêt. Cette chétive petite personne demeura un moment immobile dans cette embrasure. D'un air sombre et découragé, elle regardait sans mot dire les trois personnes réunies dans la salle. Ces trois personnes, à leur tour, n'étaient pas moins immobiles, pas moins silencieuses, il est vrai, dans leur examen de l'étrangère arrêtée sur le seuil. Il y avait, soit dans cette femme elle-même, soit dans la façon soudaine dont elle venait de paraître dans la salle, quelque chose qui les glaçait. Habitués au monde, ordinairement pleins d'aisance dans toutes les conjonctures de la vie sociale, ils se sentaient alors réduits au silence par un sentiment d'embarras plus fort que leur volonté. Jamais ils n'avaient rien ressenti de pareil en présence d'une étrangère. D'où leur venait cet embarras? Était-ce donc la véritable Grace Roseberry éveillée malgré eux dans leur esprit un soupçon contre l'autre? Commençaient-ils à croire qu'une intrigante avait bien pu se glisser dans la maison? Point du tout. Ils n'avaient pas même conçu l'ombre d'un soupçon contre Mercy. L'étrange sensation de malaise qui leur faisait perdre à cette heure jusqu'au dehors de leur politesse et de leur présence d'esprit ordinaire venait de la nouvelle arrivante, de la vraie Grace, de la malheureuse fille errante et dépouillée. Ni Lady Janet, ni Horace, ni Julian ne doutaient de l'identité de la fille adoptive du logis. Ils n'en doutaient pas plus que vous qui lisez ces lignes, vous ne mettez en doute l'identité du plus proche et du plus cher de vos parents. Les circonstances étaient venues en aide à Mercy, déjà forte du plus fort de tous les droits naturels, le droit de possession. Elle avait eu le temps depuis 4 mois d'établir son pouvoir sur Lady Janet et sur Horace. Quant à Julian, il lui avait suffi pour cela d'une heure. La position de la fausse Grace Roseberry n'était donc pas ébranlée de l'épaisseur d'un cheveu par l'apparition de la véritable Grace. Lady Janet sentit à la vue de celle-ci un mouvement de répulsion sans savoir pourquoi. Julian et Horace éprouvèrent la même impression sans savoir pourquoi davantage. Priés tous trois de définir en ce moment leurs propres sensations, ils n'auraient pu que secouer la tête. Ils étaient surtout douloureusement affectés. Le vague pressentiment de quelque malheur prochain était entré dans ce salon avec la femme en noir. Une seconde s'écoula. Les craquements du foyer et le tic-tac de la pendule étaient les seuls bruits qu'on entendit dans la chambre. La voix de la visiteuse, grave, tranquille et claire, fut la première qui rompit ce silence. « Monsieur Julian Gray, » dit-elle, en regardant alternativement les deux hommes. Julian s'avança de quelques pas et recouvra à l'instant son calme accoutumé. « Je suis désolé de ne m'être pas trouvé chez moi, » dit-il, quand vous vous y êtes présenté avec la lettre du consul. Veuillez vous asseoir. » Pour lui donner l'exemple, Lady Janet s'assit elle-même à une petite distance, Horace se tint à son poste, debout auprès d'elle. Lady Janet salua l'étrangère avec une politesse étudiée, mais sans prononcer un mot. « Je suis obligée d'écouter cette personne, » pensait la vieille dame, « mais je ne suis pas obligée de lui parler. C'est l'affaire de Julian. » « Ne restez pas debout, Horace, vous me remuez. Asseyez-vous. » Armée de cette politique du silence, Lady Janet croisa ses belles mains, comme elle avait coutume, et attendit ce qui allait suivre, majestueuse et sévère, comme un juge sur son siège. « Veuillez prendre une chaise, » répéta Julian, observant que la visiteuse paraissait n'avoir pas entendu. Elle répondit à ce second appel. « Est-ce Lady Janet Roy ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur la maîtresse de la maison. Julian fit un signe affirmatif. Pour la première fois, la femme aux pauvres vêtements noirs sembla s'animer. Elle se dirigea doucement vers la place que Lady Janet avait choisie et s'adressa respectueusement à elle avec une parfaite assurance de manière. Sa contenance, depuis qu'elle était apparue à la porte, avait d'ailleurs exprimé toujours sa confiance dans l'accueil qui l'attendait. « Les dernières paroles de mon père à son lit de mort, dit-elle, madame, m'ont appris à attendre de votre part protection et bonté. » Lady Janet ne crut pas avoir à répondre. Elle se borna simplement à l'écouter avec l'attention la plus charmante, résolue d'ailleurs à garder le silence le plus exaspérant jusqu'à nouvel ordre. Grace Roseberry recula d'un pas. Elle n'était pas intimidée, mais seulement surprise et mortifiée. « Mon père a-t-il eu tort de me parler ainsi ?» demanda-t-elle simplement, mais avec une véritable dignité de ton et de manière qui força Lady Janet à abandonner sa politique silencieuse en dépit d'elle-même. « Qui était votre père ?» demanda-t-elle froidement. Grace Roseberry répondit à cette question avec une vive surprise. « Le domestique n'a-t-il pas donné ma carte ? » dit-elle. « Ne savez-vous pas mon nom ?»« Lequel de vos noms ?» repartit Lady Janet. « Je ne comprends pas votre seigneurie. »« Je vais me faire comprendre. Vous m'avez demandé si je connaissais votre nom. Je vous demande en retour quel nom. Celui qui est écrit sur votre carte est Mademoiselle Roseberry. Le nom marqué sur vos vêtements quand vous étiez à l'hospice était Merci Merrick. » L'empire que Grace avait conservé sur elle-même depuis qu'elle était entrée dans la salle à manger sembla l'abandonner pour la première fois. Elle se retourna comme pour en appeler à Julianne, qui était assez loin d'elle, mais qui écoutait avec attention. « Votre ami le consul, dit-elle, vous a sûrement parlé dans sa lettre de cette marque qui était sur les vêtements. » Un peu de cette hésitation et de cette timidité naturelle que nous lui avons déjà vue pendant son entretien avec Merci dans la chaumière française reparut alors dans l'attitude de Grace. L'air sombre et résolu qu'elle devait à tant de souffrances supportées depuis 4 mois disparut. Le meilleur et le plus touchant côté de sa nature se révéla dans ce cri poussé vers Julianne. Jusque-là, elle n'avait produit sur le jeune prêtre qu'un effet répulsif. Il commença d'éprouver pour elle un certain intérêt mêlé de compassion. « Le consul m'a informé de ce que vous lui avez dit, répondit-il avec bonté. « Mais suivez mon conseil et racontez vous-même votre histoire à Lady Janet. » Grace s'adressa donc à Lady Janet avec une répugnance visible, mais avec soumission. « Les vêtements dont parle votre seigneurie, dit-elle, étaient les vêtements d'une autre femme. La pluie tombait à torrents quand les soldats m'arrêtèrent sur la frontière. J'avais été exposée pendant plusieurs heures à l'orage, j'étais mouillée jusqu'aux os. » Les habits et le linge marqués Merci Merrick sont ceux que Merci Merrick elle-même m'avait prêtés pendant que les miens séchaient. Je fus emportée inanimée dans les vêtements après l'opération qu'on me fit subir. Lady Janet écouta toujours gracieusement et ne répondit point. Elle fit signe à Horace de se pencher vers elle et lui dit tout bas, avec une ironie tout aimable, « Elle avait bien préparé son récit. » Horace répondit sur le même ton, « Beaucoup trop bien préparé. » Le regard de Grace alla de l'un à l'autre. Une faible rougeur parut pour la première fois sur son visage. « Dois-je penser, demanda-t-elle avec une orgueilleuse tranquillité, que vous ne me croyez pas ?» Lady Janet revint à la politique du silence et d'un geste indiqua courtoisement Julianne comme pour dire « Adressez vos questions à la personne qui vous a introduite ici. » Julianne observa la rougeur qui montait aux joues de Grace et intervint directement dans l'intérêt de la paix. « Lady Janet vous a interrogé tout à l'heure, dit-il. Lady Janet vous a demandé qui était votre père. Mon père était le colonel Roseberry. » Lady Janet jeta un regard d'indignation à Horace. « Son assurance m'étourdit, s'écria-t-elle. » Julianne s'interposa encore avant que sa tante pût ajouter un seul mot. « Veuillez laisser parler, madame, » dit-il sur un ton d'insistance qui, cette fois, avait quelque chose d'impératif. Il se retourna vers Grace. « Avez-vous quelque preuve à produire, » ajouta-t-il de sa plus douce voix, « qui nous démontre que vous êtes la fille du colonel Roseberry ?» Grace le regarda avec indignation. « Une preuve ? » répéta-t-elle. « Une preuve ? Est-ce que ma parole ne suffit pas ?» Julianne garda tout son calme. Pardonnez-moi, répondit-il, mais vous oubliez que vous et Lady Janet, vous vous voyez en ce moment pour la première fois. Mettez-vous à la place de ma tante. Comment voulez-vous qu'elle sache que vous êtes la fille de feu le colonel Rosemary ? La tête de Grace retomba sur sa poitrine. La jeune fille s'affaissa sur la chaise la plus proche. L'expression de son visage était instantanément passée de la colère au découragement. « Ah ! S'écria-t-elle avec amertume, si j'avais les lettres qui m'ont été volées !»« Des lettres ?» demanda Julian, « qui vous présentaient à Lady Janet ?»« Oui !» Elle se tourna tout à coup vers Lady Janet. « Permettez-moi de vous dire comment je les ai perdues !» dit-elle d'un air suppliant qu'elle montrait pour la première fois. Lady Janet hésita. Il n'était pas dans sa généreuse nature de résister à un semblable appel. La sympathie d'Horace était beaucoup moins aisée à obtenir. Il lança tout bas un nouveau trait, destiné à l'amusement particulier de Lady Janet. « Autre explication » s'écria-t-il avec un regard de résignation comique. Julian surprit ses paroles. Ses grands yeux brillants se fixèrent sur Horace avec une expression de mépris peu déguisée. « Le moins que vous puissiez faire, dit-il sévèrement, c'est de ne pas irriter cet infortuné. Cela est facile, assurément. » Et, de nouveau, il s'adressa à Grace, s'efforçant de l'aider en ce moment pénible. « N'essayez pas de vous expliquer pour le moment, dit-il. En l'absence de ces lettres dont vous nous parlez, avez-vous quelqu'un à Londres qui puisse attester votre identité ?» Grace baissa tristement la tête. « Je n'ai pas d'amis à Londres, » répéta-t-elle. Il était impossible à Lady Janet, qui, de sa vie, n'avait entendu parler d'une personne qui n'avait pas d'amis à Londres, de passer outre sans observation. « Pas d'amis ? » répéta-t-elle en se tournant vers Horace. Horace lança une autre flèche, légère cette fois. « Bien entendu, » repartit-il. Grace les vit échanger des signes. « Mes amis sont au Canada, » s'écria-t-elle avec impétuosité. « Là, j'ai beaucoup d'amis qui, si je pouvais les amener ici, parleraient pour moi. » En tant que lieu de renseignement, indiqué dans la capitale de l'Angleterre, le Canada est, il faut l'avouer, sujet à caution. La distance est grande. Horace tenait en réserve un autre très plaisant. « C'est certainement assez loin d'ici, » dit-il. « Certainement assez loin d'ici, comme vous dites, » répéta Lady Janet. L'inépuisable bonté de Julian tâcha encore une fois d'obtenir au moins un peu d'indulgence pour l'étrangère qui avait été confiée à ses soins. « Patience, Lady Janet, » dit-il. « Un peu de considération, Horace, pour une femme sans appui. » « Merci, monsieur, » dit Grace. « C'est très bien à vous d'essayer de venir à mon aide, mais c'est inutile. Ils ne veulent même pas m'écouter. » Elle voulut se lever en prononçant ces derniers mots, mais Julian lui mit doucement la main sur l'épaule et s'y opposa. « Je vous écouterai, moi, » dit-il. « Vous me parliez tout à l'heure de la lettre du consul. Le consul m'écrit que vous soupçonnez quelqu'un de vous avoir pris vos papiers et vos vêtements. » « Je ne soupçonne pas, » répliqua-t-elle vivement, « je suis sûre. Je vous affirme que Mercy Merrick est la voleuse. Elle était seule avec moi quand j'ai été renversée par l'obus. Seule, elle savait que j'avais sur moi des lettres de recommandation. Elle m'a avoué en face qu'elle avait été en prison, qu'elle sortait d'un refuge. » Julian l'arrêta par une question bien nette qui jetait un doute subit sur toute cette histoire. « Le consul me dit aussi que vous lui avez demandé de rechercher Mercy Merrick, dit-il. N'est-il pas vrai qu'il a fait faire des recherches et qu'on n'a trouvé aucune trace d'une personne portant ce nom ?»« Le consul n'a pris aucune peine pour la trouver, » répondit Grace avec aigreur. « Comme les autres, il a tout fait pour qu'on me repoussât et qu'on me jugeât mal. » Lady Janet et Horace échangèrent un nouveau regard. Cette fois, il était impossible à Julian de les blâmer. Plus le récit de l'étrangère avançait, moins il lui semblait digne d'une attention sérieuse. Plus longtemps elle parlait, plus désavantageusement elle défiait toute comparaison avec la femme absente, dont elle persistait à prendre le nom comme étant le sien. « En admettant tout ce que vous avez dit, » reprit Julian, avec un dernier effort de patience, « quel usage mercimérique pourrait-elle faire de vos lettres et de vos vêtements ?»« Quel usage ?» répéta Grace, étonnée qu'il ne vît pas sa position comme elle la voyait elle-même. « Mes vêtements étaient marqués de mon nom. Un de mes papiers était une lettre de mon père me recommandant à Lady Janet. Une femme sortie d'un refuge est parfaitement capable de se présenter ici à ma place. » Prononcée tout à fait à l'aventure, sans le moindre commencement de preuve pour les confirmer, ces derniers mots produisirent un terrible effet. Ils étaient trop outrageants pour la fille adoptive de Lady Janet. Lady Janet les trouva insupportables et se leva. « Donnez-moi votre bras, Horace, dit-elle, et sortons. J'en ai assez entendu. » Horace offrit respectueusement son bras à la vieille dame. « Votre seigneurie a raison, répondit-il. On n'a jamais inventé une histoire plus monstrueuse. » Dans la chaleur de son indignation, il parlait assez haut pour que Grace l'entendît. « Qu'est-ce qu'il y a là de monstrueux ? » s'écria-t-elle en s'avançant vers lui d'un air de défi. Julian l'arrêta. Lui aussi, quoiqu'il n'eût vu Mercy qu'une fois, ressentait une vraie colère de l'injure faite à la belle et douce créature absente. « Taisez-vous, dit-il en parlant sévèrement à Grace pour la première fois. Vous offensez Lady Janet. Ce que vous dites est plus qu'absurde. Vous êtes bien hardie de soutenir qu'une autre femme s'est présentée ici à votre place. » L'exaspération de Grace était arrivée à son comble. Mortellement blessée par le reproche de Julian, elle se retourna vers lui avec un regard furieux. « Êtes-vous un ecclésiastique ? Êtes-vous un homme bien élevé ? » demanda-t-elle. « N'avez-vous jamais lu dans les journaux et dans les livres des récits de gens qui se sont fait passer pour d'autres ? Je m'étais aveuglément confiée à Mercy Merrick avant d'apprendre ce qu'elle était. Elle a quitté la chaumière, je l'ai su par le chirurgien qui m'a rappelé à la vie, fermement convaincue que l'obus m'avait tuée. Mes papiers et mes vêtements ont disparu au même moment. N'y a-t-il rien de suspect dans ces circonstances ? Il y avait des gens à l'hospice qui croyaient, eux, que tout cela était suspect. Des gens qui m'ont averti que je pourrais trouver ici une aventurière à ma place. » Elle s'arrêta soudain et se retourna. Le froufrou d'une robe et le bruit de la soie avaient frappé ses oreilles. Lady Janet allait quitter la salle et se dirigeait avec Horace vers la serre. Grace s'élança en avant et leur barra le passage. « Un mot, Lady Janet, avant que vous ne vous éloigniez de moi, s'écria-t-elle, un mot et je serai contente. La lettre du colonel Roseberry est-elle arrivée dans cette maison, oui ou non ? Si elle y est arrivée, est-ce une femme qui vous l'a apportée ?» Lady Janet la regarda comme une grande dame seule peut regarder quand une personne de rang inférieur ose lui manquer de respect. « Vous ne savez certainement pas, dit-elle avec un maintien glacé, que ces questions sont une insulte pour moi ?»« Et plus qu'une insulte pour Grace, ajouta Horace chaleureusement. » La petite personne pleine de résolution qui barrait le chemin du jardin d'hiver tressaillit des pieds à la tête. Ses yeux allaient et venaient de Lady Janet à Horace et d'Horace à Lady Janet. La lueur d'un nouveau soupçon, d'un soupçon épouvantable, les illuminait. « Grace ? » s'écria-t-elle. « Quelle Grace ? C'est mon nom, Lady Janet. Vous avez donc reçu la lettre. Cette femme est ici. » Lady Janet lâcha le bras d'Horace et revint sur ses pas auprès de son neveu. « Julian, dit-elle, vous m'obligez pour la première fois de ma vie à vous rappeler le respect qui m'est dû dans ma propre maison. Mettez cette femme dehors. » Sans attendre de réponse, elle alla reprendre le bras d'Horace. « Reculez-vous, s'il vous plaît, dit-elle tranquillement à Grace, et laissez-moi passer. » Mais Grace tint bon. « Cette femme est ici, répéta-t-elle. Confrontez-moi avec elle et mettez-moi dehors après, si vous voulez. » Julian s'avança et la prit par le bras. « Vous oubliez ce qui est dû à Lady Janet, dit-il. Vous oubliez ce que vous vous devez à vous-même. » Grace lui échappa par un effort désespéré et arrêta encore une fois Lady Janet sur le seuil du jardin d'hiver. « Justice ! » cria-t-elle, frappant l'air de son poing fermé avec une fureur nerveuse. « Je réclame mon droit à voir cette femme face à face. Où est-elle ? Confrontez-nous toutes les deux !» Tandis que ces paroles enfiévrées sortaient de ses lèvres en feu, le roulement d'une voiture se fit entendre dans la rue. Dans l'agitation du moment, ce bruit, suivi de celui de la porte qui s'ouvrait, n'attira l'attention d'aucune des personnes qui étaient dans la salle à manger. La voix d'Horace s'élevait pour protester contre l'injure faite à Lady Janet. Lady Janet elle-même, quittant son bras pour la seconde fois, sonnait violemment les domestiques. Julianne avait repris Grace par le bras et essayait en vain de la calmer. La porte s'ouvrit doucement devant une jeune femme portant son mantelet sur son bras. Mercy Merrick, fidèle au rendez-vous qu'elle avait pris avec Horace, entrait dans la salle. Grace Roseberry, se dégageant violemment de l'étreinte de Julianne, s'élança vers la porte de la bibliothèque. « Ah ! S'écria-t-elle, la voilà !» Mercy alors aperçut, immobile dans son sauvage triomphe, l'ombre vivante de la femme dont elle avait volé le nom, dont elle avait laissé le cadavre derrière elle dans la chaumière du meunier. Elle tomba inanimée sur le parquet.